Bonsoir. Quand la mère de ma mère, avait une tâche difficile à accomplir, elle se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumait un feu, s'est plongée dans une prière silencieuse, et ce qu'elle avait à accomplir s'est réalisé. Quand plus tard, la mère de ma mère se trouva confrontée à la même tâche. Elle se rendit au même endroit de la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, mais nous savons encore dire la prière. » Et ce qu'elle avait à accomplir se réalisa. Plus tard, ma mère se trouva confrontée à la même tâche. Elle aussi alla de la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer les feux. Nous ne savons plus dire la prière. Mais nous connaissons encore l'endroit précis de la forêt où cela s'est passé. Et cela doit suffire. » Et ce fut suffisant. Mais quand à mon tour, je eus à faire face à la même tâche, je suis resté à la maison et je dis nous ne savons plus allumer les feux. Nous ne savons plus dire la prière. Nous ne connaissons même plus l'endroit de la forêt. Mais nous savons encore raconter l'histoire. Mon nom est Linda Wu.
Femme magnifique. Elle pleure. Il n'existe pas entre nous la moindre différence. Je pleure avec elle. Elle a tué des hommes, qui méritait d'être réduit à rien. Que beaucoup de gens auraient voulu tuer s'ils en avaient eu le courage. Elle, elle l'a fait. Elle a assassiné des assassins. On l'a arrêtée et condamnée à la perpétuité. On l'a enfermée dans un centre isolé. On a dit qu'elle était morte. On a espéré qu'elle mourrait. Mais elle a tenu bon. C'est une femme magnifique. Elle n'en peut plus. Elle s'est plusieurs fois automutilée, en particulier pendant l'hiver, où la prison est froide et humide, et où l'idée de vivre et de tenir bon se dissout. Mentalement, elle a beaucoup perdu de son assurance. Elle va mal. Quand l'administration pénitentiaire l'autorise à avoir du papier et un stylo-bille, elle dit le monde sous forme écrite, en utilisant des abréviations et un langage crypté. Et quand elle a façonné une histoire, elle la chuchote de nombreuses fois, en s'accroupissant ou en s'allongeant devant la porte. Elle s'adresse au couloir, au courant d'air qui siffle dans l'étage vide. Elle dit le monde. Elle invente des rêves. Elle reprend des histoires qu'elle a écrites. Où elle réfléchit à nos combats. À ceux que nous avons menés en habit de guerriers. Et à ceux que nous avons menés en habit de prisonniers. Et que nous continuons à mener. Avec de la parole. Des souffles. Des hallucinations. Et je ne sais quoi encore, qui est beaucoup trop tranquille pour être de la haine. Elle s'appelle Linda Wu. Comme nous, elle a perdu toutes les batailles. Elle est magnifique. Mais elle a perdu.
Je te rappelle que si nous nous sommes autrefois engagés en politique et en littérature, ce n'était pas pour tenter d'obtenir plus de confort dans notre vie personnelle, ou parce que nous désirions rapprocher ceux qui apparaissent avec une humilité tapageuse au-dessus du monde et qui les gouverne et leur donne. Et parce que nous voulions jouir des droits de parler au nom des maîtres et en défense des maîtres, avec un retour, les droits d'attendre leur flatterie, les friandises et les babioles que les puissants distribuent à leurs serviteurs, que ceux-ci soient des politiciens ou des artistes. Non. Il faut chercher ailleurs les racines de notre engagement. Nous, Myriam Ossorgon, Maria Clementi, Jean Doyevode, Irina Kobayashi, Jean Edelman, Maria Schrag et beaucoup d'autres. Nous sommes engagés en politique pour tenter de bouleverser des fonds d'un comble tous ceux qui étaient établis comme à jamais sur la planète, tous ceux qui favorisaient l'éternel malheur et obligeaient 5 milliards de gueux humains à vivre dans la boue, dans la poussière et dans l'absence d'espoir. Nous n'étions pas distributeurs de bacotilles. Nous nous sommes engagés en politique avec des armes. Nous avons pris le chemin de la clandestinité et de la subversion, et sans craindre ni la folie ni la mort. Nous nous sommes lancés dans une bataille où nous n'avions qu'une chance minime de gagner. Une chance infinitésimale. Et nous nous sommes ainsi retrouvés soldats et solitaires, dérisoirement peu nombreux sur les fronts d'une bataille, ou combat après combat. Nous perdions tout. Il nous arrivait même de perdre la certitude qu'un jour, les enfants des misérables ouvraient les yeux sur un monde non ténébreux, non mafieux et non inégalitaire. Mais nous n'avons pas oublié. Nous avons continué à lutter, énumérant les morts et les mortes, et refusant de les trahir. Refusant toute possibilité de compromis, et refusant de déposer les armes. Et lorsque l'encerclement idéologique et militaire a été trop féroce pour que nous ayons encore la possibilité de vivre en liberté, nous avons refusé de changer notre discours devant l'ennemi et de revoir nos objectifs à la baisse, ce qui nous a conduit très naturellement dans les couloirs de la mort. Et dans les couloirs des maisons d'arrêt, on nous a enfermés comme on enferme des bêtes nuisibles et incapables de soumission. Nous avons en mémoire les guerres et les exterminations ethniques démenées d'un bout à l'autre du XXe siècle. Nous n'en oublions, n'en perdons aucune. Nous gardons à l'esprit en permanence les barbaries et les inégalités qui s'aggravent entre les hommes. Nous considérons que le XXe siècle a été constitué de 10 décennies de douleur à grande échelle, et que le XXIe siècle s'est engagé sur la même route, car les causes objectives Et les responsables de cette douleur sont toujours là. Et même se reproduisent, se renforcent, comme dans un Moyen-Âge interminable. Voilà ce que détermine notre enfermement dans une pensée radicale de la révolte. Une fois écrasés et condamnés, nous nous sommes obstinés à exister encore dans l'isolement des quartiers de haute sécurité ou de la clôture monacale définitive de la mort. Notre mémoire est devenue un recueil de rêves. Nos marmonnements ont fini par façonner des livres collectifs et sans auteur clairement revendiqués. Nous nous sommes mis à ruminer sur les promesses non accomplies. Et nous avons inventé des mondes où l'échec était aussi systématique et cuisant que dans ce que vous appelez le monde réel. Dans ce que la mort appelle le monde réel. Les morts. Leur parole a retenti dans un espace où le vivant s'est raréfié. Ainsi, et seulement ainsi, doivent être perçus nos textes. Comme un dernier témoignage inutile et imaginaire, prononcé par des épuisés et par des morts et pour des morts, notre parole. Bien entendu, notre parole ne prétend pas avoir une quelconque utilité dans les combats égalitaristes concrets qu'il conviendrait de mener hors les murs. Ce qui est des actions militaires n'ont en aucune manière ébréché. Des paroles d'écrivains ne peuvent les menacer, ni les briser. Nous savons cela. Nous n'entretenons aucune illusion sur cela. Nous n'éprouvons aucune fierté en maniant la parole. Nous connaissons notre insignifiance. Dans un univers où la multiplication du verbe est le terreau sur quoi prospèrent les acteurs du malheur, sur cette ignoble scène de théâtre, où le foisonnement de débats contradictoires est un écran cynique derrière lequel le maître conserve les mains libres. Le verbe n'a ni influence ni force. Nous ne vivons plus dans cet univers. Mais notre forteresse carcérale n'est pas non plus un lieu où dire les choses, permet d'échanger les choses. Toutefois, tant que nous disposerons d'un peu de souffle encore, nous inventerons encore et encore la magie absurde de cette parole. Nous irons dans les mots et nous dirons le monde.
Jürgen Pizarro et Dimitri Radcliffe. Il n'y a pas d'animaux de force animale. Il y a Dorothy Rush, Rita et Everest Meyer, Monica Santander, Maria Suerbon, Maria Schnitke, Maria Schrag, Lilith Schwag, Aidan Sherrod, Irina Soledad et Maria Sudeyeva. Il y a encore Julio Stenhagen, Maria Gabriela et Ralph Tillman, John Wallinger, Anita Weingang, Vernieri, Rebecca Wolf, Yan Zhang et Jean Vogelab.
Elle aime s'adosser au mur. Elle traverse le mur. Elle est dépeignée par le vent. Elle est sous le ciel mouvant de la steppe, au milieu des herbes mouvantes. Et elle parle plus fort que les souffles. Elle dit le monde. Elle dit le monde. Et disant le monde, elle parle de nous. derrière le masque de douleur et de solitude, sous la peau que le manque de soleil enlaidit, subsiste une lumière que rien ne peut éteindre. Et maintenant, illuminée de l'intérieur, elle chantonne contre le mur. Elle se cogne doucement l'arrière du crâne contre le mur. Et déjà, elle est là-bas, en plein vent. Et elle chuchote un discours aux nomades et aux morts. Elle a du mal, face au vent, contre le mur, dans la steppe, où les distances donnent le vertige, dans la cellule, où elle ne peut pas faire trois pas sans se heurter à quelque chose d'infiniment dur et infranchissable. Elle est essoufflée. Le vent lui arrache les mots de la bouche. Sur son visage passionné, magnifique, les larmes coulent. Elle ne replie pas les bras pour les essuyer. Elle est en transe, mais son corps menace à tout instant de la trahir. Elle est sous le ciel, face au ciel, au milieu des herbes. Elle a un cri en gorge. Mais finalement, elle marmonne. Elle ferme les yeux. On ne sait plus ce qu'elle voit. On ne sait plus si les morts sont encore là, ni s'ils l'écoutent. On ne sait plus ce qu'on entend. Du vent sous le ciel infini. Une leçon de Lindau. Ou un courant d'air dans l'étage vide. Elle fait aller sa tête jusqu'au ciment. Elle caresse une ou deux fois le ciment avec l'arrière de son crâne. Et puis elle balance plus fort sa tête jusqu'à ce qu'elle entende le choc et qu'elle ait mal. Elle pleure. Je suis là avec elle, je pleure avec elle. Elle ne bouge pas pendant un moment et puis... elle se cogne plusieurs fois le crâne sur la paroi de ciment contre laquelle elle s'appuie. Elle s'interrompt. Je m'arrête là. J'essaye de fouiller encore dans ma mémoire. Mes mains se recouvrent d'une suie répugnante. Je ne sais plus mettre des mots sur ce que j'ai perdu. Je n'en peux plus. De raconter.
C'est ça. N'y raconte plus.
On ne se rend plus bien compte. En fait, à partir d'un certain moment.
Oui et non. C'est surtout que... penser à un voie définir. On voudrait penser à trop de choses en même temps.
où on perd nos dernières secondes à balbutier mentalement les bribes absurdes.
Oui. Par exemple, on balbutie en liste. On s'y raccroche. Comme un buis de sauvetage. On oublie qu'il n'y a pas de sauvetage.
On a oublié tant de choses.
Oui.
Oui.
Il n'aide plus de souvenirs. Il ne raconte plus.
J'essayais juste de raconter encore un peu avant la fin.
Mais on t'a peut-être suffisamment entendu. Ça ne sert à rien d'être égocentrique à ces moments-là.
Non.
Non quoi?
Ça ne sert à rien.
Ça n'a plus aucune importance désormais. Qui tu occupes ou non le devant du monologue?
Non, plus aucune importance.
Tu vois bien. Inutile de se cacher la vérité. Je ne réagis plus comme avant. Maintenant, je pleure mal. Quelque chose a changé à moi autant qu'ailleurs. La pestilence des grands charniers a été lavée par plusieurs années devant uninterrompu. Certains spectacles m'affligent encore. D'autres non. Certaines morts. D'autres non. J'ai l'air d'être au bord de Saint-Cloud, mais rien ne vient.
Linda, où? Nous ne sommes pas des personnages de romans. Dans la terre des pauvres, dont les richesses appartiennent exclusivement aux riches. Devant nous, s'étend une planète de terre écorchée, de forêts saignées à cendres, une planète d'ordures, un champ d'ordures, des océans que seuls les riches traversent. Des déserts pollués par les jouets et les erreurs des riches. Nous avons devant nous les villes dont les multinationales mafieuses possèdent les clés. Les cirques dont les riches contrôlent les pitres. Les télévisions conçues pour leur distraction et notre assoupissement. Nous avons devant nous les brillantes vedettes et les célébrités doctorales, dont pas une des opinions émises, dont pas une des dissidences spectaculaires n'entre en contradiction avec la stratégie à long terme des riches. Nous avons devant nous leurs valeurs démocratiques, conçues pour leur renouvellement éternel et pour notre éternel torpeur. Nous avons devant nous les machines démocratiques qui leur obéissent au doigt et à l'œil et interdisent aux pauvres toute victoire significative. Nous avons devant nous les cibles qu'ils nous désignent pour nos haines, toujours d'une façon subtile, avec une intelligence qui dépasse notre entendement de pauvre et avec un art qui double le langage, qui annihile notre culture de pauvre. Nous avons devant nous leur lutte contre la pauvreté, leur programme d'assistance aux industries des pauvres, leur programme d'urgence et de sauvetage. Nous avons devant nous leur distribution gratuite de dollars pour que nous restions pauvres et eux riches. Leurs théories économiques méprisantes et leur morale de l'effort et leurs promesses pour plus tard d'une richesse universelle pour dans 20 générations ou dans 20 000 ans. Nous avons devant nous leurs organisations omniprésentes et leurs agents d'influence, leurs propagandistes spontanés, leurs innombrables médias, leurs chefs de famille scrupuleusement attachés aux principes les plus lumineux de la justice sociale pour peu que leurs enfants aient une place garantie du bon côté de la balance. Nous avons devant nous un cynisme tellement huilé que le seul fait d'y faire allusion, même pas d'en démonter les mécanismes, mais simplement d'y faire allusion, renvoie dans une marginalité indistincte, proche de la folie et loin de tout tambour et de tout soutien. Je suis devant cela. Je suis en face de cela. En terrain découvert, exposé aux insultes et criminalisé à cause de mon discours. Nous sommes en face de cela qui devrait donner lieu à une tempête généralisée, à un mouvement du traboutiste et impitoyable, 10 décennies au moins de réorganisation impitoyable et de retranchement selon nos règles, et à pas prendre garde aux logiques religieuses ou financières des riches et en dehors de leurs attentes d'influence, et sans prendre garde aux clameurs de leurs équipes chiens de garde. Nous sommes devant cela depuis des centaines d'années. Et nous n'avons toujours pas compris comment faire pour que l'idée de la direction égalitaire, en même temps, à la même claque, les milliards de pauvres qu'elle n'a pas visités encore, et pour qu'elle s'y enracine, et pour qu'enfin elle y fleurisse. Trouvons donc comment faire, et faisons-le.
J'aimerais rejoindre l'ombre et ne pas avoir à décrire l'ombre. Le mieux serait de s'installer dans l'amnésie, à la branche du réel, les yeux mi-clos, et d'être ainsi jusqu'au dernier souffle, momifié sous une pellicule trouble, de conscience trouble et de silence. Mais malheureusement, je ne réussis pas à me taire.
Tu ne veux plus accepter la fin de ta promenade noire. Et pourtant, ta promenade est terminale. Ton rêve ne fait que se ralentir. Et dans la nuit de plus en plus épaisse, le temps n'est plus celui des adieux. Le temps n'est plus celui du présent. Les heures s'écroulent hors de toi, comme tu sens.
Oui, ma signature figure au bas des décrets qui ont rétabli le capitalisme. Et qui ont permis aux mafieux de régner une nouvelle fois sur l'économie. C'est horrible à dire. Mais beaucoup de gens espéraient cela depuis longtemps. C'est horrible à dire. Mais je vous rappelle que presque plus rien dans les villes tenait debout. Sinon des immeubles et des chicots noircis d'immeubles et qui dans les forêts et les campagnes ne comptait plus le territoire, où la végétation avait pris une couleur mauve, lilas, myrtille. Je vous rappelle aussi que les bétails étaient comme balayés par un vent de mort et de peste, et qu'ils étaient morts. De toute façon, il n'y avait plus rien. Il fallait bien rétablir quelque chose. Je reconnais avoir trahi mes génitrices et avoir trahi la société tout entière. Vous m'aviez donné naissance pour que je remette à zéro les compteurs du naufrage. Vous souhaitiez que j'invente de nouveaux dispositifs et que je débloque les rouages paralysés du système. Vous m'avez lancé en direction du monde pour que je purge les systèmes des monstres qui prospéraient. J'ai conscience. D'avoir fait régresser l'humanité vers le stade de la barbarie. J'ai remis en place le chaos cruel du capitalisme. J'ai abandonné les pauvres entre les mains des riches et de leurs complices, alors que l'humanité était déjà au bord du gouffre et presque éteinte. En quelques années, j'ai gaspillé des siècles. Des sacrifices libérateurs et des luttes acharnées et des sacrifices tout court. Je ne mérite pas que ma chair fût à coup de pioche de lapis. Un châtiment expéditif serait trop doux pour la responsable d'une infamie historique aussi lourde. Aussi flagrante. La lapidation ou la fusillade serait trop douce pour sanctionner un crime comme le mien. Concevez pour moi plus douloureux que la mort. Fabriquez pour moi pire que la souffrance. Dans les remords éternels ou dans l'errance. Enfermez-moi dans l'enfer. Et ne me laissez sortir sous aucun prétexte. Et arrangez-vous pour que nul, jusqu'au refroidissement terminal des étoiles, ne songe à me plaindre. Je dis je au hasard. Je ne sais pas qui parle à moi et quelle intelligence m'a conçue ou m'examine. Je ne sais plus si je suis morte. Je ne sais pas si je vais mourir. Quoi qu'il arrive. On n'éclora pas mes paupières sans mon accord. Il n'y aura aucune interruption des images sans mon accord. Quoi qu'il arrive, qu'on n'accuse personne de ma vie.
sans croire que l'espace existe.
Jean Eldamon appelle Clémentine. Attendez.
Aime Milan. Aime sans croire que l'amour existe.
Maria Schrag appelle Clémentine.